www.libradio.org. La radio qui entretient le suspense.
Nous sommes avec Libre Radio et Fréquence Banane donc, à l'Almacène en plein cœur des grottes, à l'aune de la conférence et rencontre internationale autour de la discrimination des animaux, le spécisme en question qui aura lieu du 1 au 3 septembre 2017 ici à Genève. Et nous sommes en compagnie de Yves Bonnardel qui fait partie de PEA pour l'égalité animale, une association qui maintenant existe depuis quelques années.
Oui, elle a été créée en 2014, mais elle fait suite à Los Animalistes.
Alors, le spécisme, déjà, je pense que dans une première partie, nous allons fixer quelques jalons pour que les personnes qui nous écoutent sachent de qu'est-ce qu'il en est exactement du spécisme. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, nous allons parler du programme de cet événement, qui est un gros événement quand même, que l'on prépare toute l'année. Hein,
oui, tout à fait. Oui, c'est un gros colloque, une grosse série de conférences, des grosses rencontres avec des gens qui viennent de plusieurs pays, même du Québec, etc.
D'accord. Alors déjà, merci d'être là et puis de prendre du temps, parce que j'imagine qu'en ce moment, ça va être un petit peu la course marteau.
Oui, mais moi, je suis très content là qu'on fasse une petite émission à Radio à Fréquence Banane.
Ah ben, écoute, ravi en tout cas que tu sois des nôtres. Alors, en quelques mots, peut-être, fixons ce que représentent les notions, les valeurs du spécisme.
Oui, alors le terme peut paraître un peu bizarre, il n'est pas si connu que ça, il commence quand même à l'être. C'est, au départ, ça désigne la discrimination dont sont victimes des individus sur la base de leur espèce. En fait, le mot, il est construit par analogie avec le mot racisme ou le mot sexisme, qui sont les discriminations respectivement fondées sur la race ou le sexe des individus, et où la race ou le sexe sont des prétextes à ne pas prendre en compte, ou moins prendre en compte les intérêts des individus racisés, sexisés, etc. Mmh. Des Noirs, des Arabes, des femmes, etc.
D'accord.
Et de la même façon, la notion de spécisme, elle désigne le fait qu'on utilise l'idée d'espèce, d'appartenance à telle ou telle espèce, pour ne pas prendre en compte les intérêts des individus. Et on vit typiquement dans des sociétés spécistes, c'est même au fondement de nos civilisations, où c'est l'appartenance à l'espèce humaine qui importe, et on se voit accorder des droits fondamentaux, déjà les droits de base, à le droit à la vie, le droit à la liberté, etc., et puis des droits fondamentaux, hein, à la participation politique, etc., parce qu'on est humain. Et par contre, tout... les êtres qui ne sont pas humains et qui pourtant sont aussi des êtres sensibles, qui ont des intérêts à défendre, dont la vie peut se passer bien ou mal comme la nôtre propre, qui cherchent à éviter la souffrance, qui recherchent le plaisir, tout comme nous, et bien ces êtres, parce qu'ils ne sont pas humains, voient leurs intérêts complètement méprisés, sont eux-mêmes méprisés, et on ne les prend pas en compte, et du coup ils sont exploités d'une façon absolument abominable, et pour un oui ou pour un non, pour les raisons les plus frivoles en fait. Donc voilà, le spécisme, ça désigne cette discrimination arbitraire qui permet en fait l'exploitation animale. Et puis ça, c'est un peu une définition de philosophie morale, mais il y a aussi une définition politique. Le racisme ou le sexisme, c'est pas seulement des notions de philosophie morale, c'est aussi des notions politiques. Ça désigne l'idéologie dans laquelle on baigne, dans laquelle baigne notre société, et qui organise dans nos représentations le fait qu'on va appliquer deux poids, deux mesures selon la race, selon le sexe, etc. Et bien le spécisme, c'est aussi l'idéologie qui baigne nos sociétés et donc tout un système de représentation, d'affect qui fait que spontanément, on va accorder de l'importance aux humains et ne pas en accorder aux autres animaux.
D'accord.
Ça, oui, c'est quelque chose qui va très loin, qui est vraiment très diffus dans notre société, ça touche un peu tous les domaines. Moi, je peux prendre des exemples un peu. Au niveau du vocabulaire, on va utiliser des termes différents pour désigner les membres humains et les membres des animaux. Nous, on a des mains, les autres ont des pattes, des mains ou des pieds. On a un nez, les autres ont un groin ou ceci, cela. Ou à un autre niveau, un couteau, quand ça sert à tuer un humain, c'est une arme. Quand ça sert à tuer un animal, c'est un outil. Enfin, on a comme ça plein de distinctions qui sont faites, qui organisent un apartheid dans la pensée entre les humains et les autres animaux. Ça, c'est l'idéologie spéciste.
Et d'où, j'imagine également, la difficulté que cette notion surgisse par le biais, justement, de ce champ sémantique restreint, ou en tout cas biaisé, qui j'imagine, impermet que l'on mette les bonnes idées à jour. Alors, à quel moment est-ce que cette conscience spéciste, selon toi, apparaît-elle ?
Oui, la conscience du spécisme, elle apparaît, on peut dater le terme, enfin, vraiment des années 70. Et notamment, le terme va être popularisé par un chercheur en philosophie morale qui s'appelle Peter Singer, qui maintenant est internationalement connu, non seulement pour ses travaux sur la question animale, mais aussi pour ses travaux sur l'altruisme en général et sur le devoir de venir en aide aussi aux pauvres, par exemple, etc. etc. Et Singer faisait un travail sur la notion d'égalité. Et c'était donc dans les années 70, c'était les mouvements pour les droits civiques, le mouvement féministe, les mouvements pour les droits des personnes handicapées, etc. Et il se posait la question de la validité de cette notion d'égalité qui était souvent brandie par les mouvements contestataires. Et un ami à lui qui était végétarien lui a posé la question, mais pourquoi cette notion d'égalité, elle serait restreinte seulement aux seuls humains? Pourquoi elle inclurait pas les animaux? Et il a mis cette question à son agenda et il a abouti à la conclusion que effectivement, c'était pas une position défendable, cette histoire d'égalité pour les seuls humains. Par contre, que la notion d'égalité, oui, c'est un peu au fondement de l'éthique. L'éthique, ça consiste à prendre en compte les intérêts des autres comme si c'était les nôtres propres, c'est-à-dire d'une façon égale aux nôtres. Théoriquement, hein, je veux dire, dans la pratique, c'est toujours plus compliqué, mais et agir de façon morale, c'est prendre en compte les autres comme des semblables et considérer leurs besoins, leurs désirs avec la même importance, leur donner la même importance qu'aux nôtres.
Ok. Et alors, dis-moi, selon toi, où en est-on ici et maintenant quant à cette notion-là? Est-ce que, alors tu l'as dit en début d'entretien, on sent que quelque chose surgit, on voit qu'effectivement des organisations telles que la vôtre, telles que PEA et d'autres, eh bien, mettent en avant de plus en plus ces notions-là. Mais selon toi, est-ce que c'est encore quelque chose qui doit se révéler aux gens, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà, qui commence à être relayé? Je pense aux masses médias, mais je pense également aux écoles, je pense aux cuisines scolaires, par exemple, à des éléments comme ceci.
Alors, ça commence tout juste à être relayé. Il y a un énorme travail qui reste à faire. Là, hier, j'ai distribué des tracts à plein palais au marché aux puces pour ce colloque, cette série de conférences. Et il y avait quand même un certain, peut-être 10% des gens qui connaissaient le terme, ce qui est déjà pas mal. Et puis bon, dans les autres cas, c'était justement l'occasion d'en parler, c'était pas mal. Mais il y a un travail énorme pour faire passer cette idée qu'il y a une discrimination, qui est une discrimination arbitraire, qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas défendable logiquement, et qui du coup est injustifiable et injuste, et du coup qui doit être combattue avec les conséquences qu'elle a, donc qui sont l'exploitation des animaux. Là, il y a vraiment un travail énorme à faire. Et alors, un peu la spécificité de PEA, c'est justement, donc ça s'appelle pour l'égalité animale, c'est de mettre en avant ces notions-là en pensant que si on veut changer la société un peu de façon fondamentale sur la question animale, c'est en posant effectivement les raisonnements de fond. Et donc, en challengeant, je ne sais pas comment on dit... En défiant un petit peu le monde dans lequel on vit, qui repose tout entier sur le spécisme, sur l'humanisme, au sens, pas au sens positif du terme dans ce cas-là, mais dans un sens négatif, qui est cette restriction de la considération des autres aux seuls humains.
On voit bien que là, ce qui est dénoncé également, c'est les rapports de domination, et que la domination, elle peut s'exercer effectivement également entre humains.
Tout à fait. Mais d'ailleurs, elle suit un modèle qui est inspiré du spécisme, dans la mesure où quand on veut discriminer des catégories humaines, systématiquement, on va reprendre les catégories animalité-humanité et déshumaniser les humains, qu'on veut mépriser et exploiter ou discriminer, et les animaliser. Et en fait, on peut même dire que d'une certaine façon, on a animalisé les animaux au sens où on en a fait des bêtes, des animaux qui sont régis par leurs instincts, qui sont des brutes, etc. Alors que dans la réalité, on découvre de plus en plus que les animaux eux-mêmes sont doués de sensibilité, bien sûr, mais d'intelligence, qui savent dans certains cas apprécier la beauté, qui font preuve d'altruisme, etc. On découvre de plus en plus que les qualités qui étaient censées être proprement humaines sont partagées par énormément d'animaux, y compris par exemple les poissons. Et donc voilà, non seulement on animalise les humains qu'on veut mépriser, mais on a animalisé les animaux eux-mêmes. On en a fait des êtres stupides, bêtes.
Absolument, oui. Alors, dis-moi, et puis ensuite nous entrerons bien entendu plus précisément sur le programme du colloque à proprement parler, mais quels sont les relais manquants ou présents Concernant justement le spécisme, est-ce que les masses médias en parlent un peu? Est-ce que, je ne sais pas, au sein de partis politiques, certaines personnes s'y impliquent? Est-ce que c'est juste le fait de la société civile, de groupes engagés tels que PEA? Qui relaye cette information-là? Qui en est sensible?
Alors, il y a de plus en plus de relais dans les médias, mais ça reste très timide. Et puis, les médias ont tendance un petit peu à tout égaliser. C'est-à-dire que quand ils vont parler du spécisme, ils vont en parler comme d'une tendance parmi d'autres. Alors que nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a raison. Alors, on n'est pas les seuls à penser qu'on a raison, évidemment. Mais simplement, les thèses en philosophie morale sur le spécisme, elles ont été publiées dans les années 70. Et depuis 40 ans, il y a eu des débats incessants sur la question du spécisme et de l'égalité animale. Et ces débats, en fait, ont révélé qu'il n'y a effectivement pas d'arguments à l'heure actuelle qui permettent de justifier l'état actuel des choses, le fait de ne pas prendre en compte les intérêts des autres animaux. Dit autrement, on a raison. On n'est pas une tendance, il y aurait des histoires de goût et de couleur, il y aurait les gens qui sont spécistes, il y aurait les gens qui ne sont pas spécistes et qui refusent le spécisme, et puis bon, voilà, ils ne sont pas d'accord entre eux, etc. En fait, c'est un petit peu... à l'heure actuelle, on considère que le sexisme, par exemple, c'est quelque chose effectivement qui est injustifiable et qui doit être combattu. Et c'est l'ensemble de la société, effectivement, qui se mobilise un peu mollement tout de même, hein, et à reculons, mais disons qui, théoriquement, est critique du sexisme. On devrait, nous, notre but, c'est d'arriver à la même situation par rapport au spécisme. À l'heure actuelle, on n'en est pas là. Même quand les médias en parlent, ça reste sous une forme... voilà, il y a des gens qui pensent ça.
Un peu exotique.
Oui, un peu exotique. Bon, on nous donne de plus en plus de place, ouais, je trouve, c'est quand même intéressant. Mais il n'y a pas encore véritablement cette prise de conscience que l'humanisme n'est pas défendable rationnellement, logiquement, quoi.
On va d'ores et déjà rappeler le site internet de PEA pour l'égalité animale, donc asso-pea.ch, et le site dédié spécifiquement au colloque qui est end-of-specisme.org. Donc ça, c'est les sites sur lesquels on trouve toutes les informations concernant le programme, etc. Et pas que.
Et pas que, voilà. Oui, bien sûr, alors, on trouve énormément d'informations.
Alors justement, est-ce à dire qu'à PEA pour l'égalité animale, est-ce à dire qu'on y trouve un petit peu la représentation de la société civile? Des gens de tous bords, de tout âge, de toutes conditions.
Oui, tout à fait. Oui. Ben, la question animale est une question qui est extrêmement transversale, y compris d'ailleurs aux positionnements politiques généraux. Nous, ce qu'on avance, donc, c'est la lutte contre les discriminations et une lutte égalitariste qui est plutôt historiquement ancrée à gauche. Mais il y a des gens de droite qui se reconnaissent tout à fait là-dedans.
Très bien. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça implique d'avoir cette conscience-là? Parce qu'effectivement, on sait, on a des idées, et puis avec des idées, ben, viennent les actes. Et alors, qu'en est-il de ces actes? Parce que j'imagine que déjà, il faut d'une certaine manière déconstruire ce qui nous assiège autour de nous. Beaucoup de choses sont quand même faites, comme tu l'as très bien indiqué tout à l'heure, de manière spéciste. Et alors voilà, quelles attitudes est-ce que les spécistes arrivent à mettre en place? Quel réseau, très concrètement, arrive-t-il à développer pour se sortir justement de cette majorité, de ce monde majoritairement construit autour justement du spécisme?
Oui. Alors oui, tu dis les spécistes, non, tu voulais dire les gens qui sont contre le spécisme.
Oui, tout à fait.
Oui. Tout à fait. Ben, en fait, très souvent, la prise de conscience, elle passe pas par ces notions de spécisme et d'égalité animale, elle passe directement par une identification à ce que vivent les animaux qui subissent des horreurs dans les élevages, dans les abattoirs, etc., ou sous les filets de pêche, c'est-à-dire sous une forme qui est plutôt sensible. D'accord. Alors, c'est pas systématique. Moi, je suis venu à la question plutôt sous une forme intellectuelle. Mais c'est très variable, et très souvent, tout de même, c'est par identification à l'animal, ce qui est quelque chose de nouveau, parce que dans cette idéologie spéciste, il y avait justement ce tabou. C'était un péché d'anthropomorphisme ou de sensiblerie, ce qu'on disait avec beaucoup de mépris pour avec l'idée d'une sensibilité non rationnelle, réservée aux femmes, etc. C'était par sensiblerie qu'on pouvait s'identifier aux animaux. Alors que maintenant, de plus en plus, c'est acté que c'est quelque chose finalement de normal, que c'est simplement un exercice de notre altruisme que de aussi se projeter dans ce que vivent les autres animaux. Mmh. Donc ça, c'est un changement important. Mais ce que ça signifie très vite, c'est effectivement ressentir l'horreur pour ce qui est vécu par des myriades d'êtres sensibles. Et très, notamment, enfin, le plus gros champ de l'exploitation animale, c'est l'exploitation pour la nourriture, c'est les animaux de boucherie, les animaux de rente, qui constituent à peu près 99% des animaux exploités, et qui sont exploités aujourd'hui d'une façon qui est monstrueusement cruelle, qui cause des souffrances innommables, des élevages concentrationnaires, des méthodes de management, de transport et d'abattage qui sont industrielles et donc évidemment qui ne prêtent pas beaucoup d'attention au sort des individus. Et puis, on a même découvert récemment que ce que vivent ces animaux-là, c'est finalement presque anecdotique par rapport à tout ce qui est vécu par les animaux aquatiques. En fait, dans le monde, il y a 64 milliards d'animaux vertébrés terrestres qui sont tués chaque année. C'est un chiffre énorme. C'est presque autant qu'il n'y a eu d'humains depuis l'apparition de l'humanité sur Terre. Bon, mais ça, c'est seulement les animaux vertébrés terrestres. Si on prend que les vertébrés, en fait, il y a presque 95% des vertébrés sont des animaux aquatiques, les poissons. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert récemment parce qu'ils étaient comptabilisés qu'en tonnes jusqu'à récemment. Et il a fallu faire un décompte, ça a duré. Il y a une association qui s'est attelée à la tâche, poisson par poisson, les nombres de tonnes, la taille moyenne, le poids moyen, etc. Et ils aboutissent à l'idée qu'il y a entre 1000 et 3000 milliards de poissons qui sont tués chaque année dans le monde. Et encore, c'est les estimations basses, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte les pêches illégales, ça prend pas en, qui sont de l'ordre de 25% sans doute, ça ne prend pas en compte tous les animaux qui sont rejetés parce que ce n'était pas les bonnes prises, ce n'était pas les bonnes tailles, ce n'était pas les bonnes espèces, qui sont entre 10 et 40% des prises. Ça ne prend pas en compte les animaux qui sont destinés à la consommation de bétail mais qui ne sont pas déclarés, etc., etc., qui sont de l'ordre de peut-être 25% aussi. Donc c'est incommensurable le nombre de victimes. Donc de façon générale, notre consommation de viande et de poisson, c'est quelque chose d'absolument monstrueux. Parce qu'on imagine bien que ces animaux-là, massacrés en nombre aussi conséquent, ne vivent pas non plus une vie angélique avant leur mort. Et pour les poissons, même quand il s'agit de poissons sauvages, maintenant en fait la moitié des poissons consommés par les humains viennent de l'aquaculture, de la pisciculture. Et ils vivent dans des conditions qui sont encore plus terribles que les animaux vertébrés terrestres dans les élevages industriels. Avec des taux de mortalité qui sont effarants, des parasites qui leur bouffent la peau vivant, etc., etc. Mais même les poissons pêchés vivent en fait une mort qui est assez monstrueuse. Par exemple, la pêche au chalut, c'est une pêche qui est de plus en plus profonde parce qu'il y a de moins en moins de poissons dans les mers. Mais on pêche donc des animaux, des fois, qui vivent 100 ans, hein, qui... C'est des animaux de plus en plus petits parce qu'il y en a de moins en moins, donc c'est de plus en plus des juvéniles. Donc, en fait, à tonnage égal, on en pêche de plus en plus. Et ils sont remontés des profondeurs rapidement par les filets. Et donc, ils souffrent de la décompression comme les humains. C'est-à-dire que les gaz dissous dans les tissus reprennent une forme gazeuse et ils explosent de l'intérieur. Les vessies natatoires explosent, ça les compresse tellement que souvent l'estomac et l'œsophage sortent par la bouche, les yeux sortent des orbites, etc. On n'imagine pas l'horreur que c'est. Et ils n'en meurent pas nécessairement tout de suite. Et ensuite, ils sont pêchés par tonnes, ils sont déchargés sur les navires, ils vont asphyxier à l'air libre. Certains mettent des heures, en fait, hein, certains poissons, pour mourir asphyxiés à l'air libre. On les fait mourir comme ça. On ne mettrait pas, par exemple, des poules à se noyer dans un bassin pour les tuer. C'est ce qu'on fait avec les poissons en les laissant s'asphyxier à l'air libre. Et puis, comme il faut les traiter rapidement pour pas que les chairs s'abîment, souvent ils sont éviscérés vivants, etc., etc. Donc, j'insiste un peu là-dessus parce qu'on parle très peu des animaux aquatiques et que c'est, en fait, d'une certaine façon, le cœur de la souffrance animale, c'est les animaux aquatiques.
Puis, effectivement, ce sont des cris étouffés puisqu'on ne les entend pas.
On ne les entend pas, ouais.
Alors, on l'a compris, une des premières choses à faire, c'est l'alimentation, puisque c'est celle-là qui est concernée. J'imagine qu'il y a également, du point de vue des vêtements, des cosmétiques, des médicaments, de la santé, quelque chose qui se joue là aussi, lorsque l'on, voilà, que l'on devient spéciste et que l'on comprend les enjeux qui s'y passent.
Oui, tout à fait. En fait, dans nos sociétés, les humains sont des personnes et les animaux sont des choses. Et ça veut dire qu'ils ont un statut de bien, d'objet, de propriété, au même titre que des cailloux ou du maïs ou que sais-je. Et du coup, on les utilise dans tous les domaines où ils sont exploitables en tant que pure matière. C'est-à-dire que nos sociétés sont fondées dans tous les domaines sur l'exploitation animale. Alors que ce soit des ingrédients, que ce soit effectivement le cuir, la fourrure, que ce soit la gélatine autrefois, mais qu'on trouvait de partout, enfin on le trouve encore dans les bonbons, etc. Enfin, c'est vraiment dans tous les domaines qu'on retrouve l'exploitation animale. C'est-à-dire que le combat, d'une certaine façon, se joue à ce niveau-là, dans tous les domaines économiques de la société. Et puis dans la recherche scientifique aussi, qui souvent est une recherche routinière, en fait, qui est normalisée. On va tester tel ou tel produit sur des animaux pour savoir s'ils sont nocifs, etc., etc. Et où, en fait, ça va être des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, à l'échelle de la communauté européenne, des dizaines de millions d'animaux qui sont tués chaque année pour des pratiques routinières visant à tester tel ou tel savon ou tel médicament, etc. quoi.
Toutes des choses, comme tu l'as bien indiqué, dont on pourrait se passer.
Des choses dont on pourrait se passer. Dans certains cas, ce serait peut-être un peu compliqué de s'en passer à l'heure actuelle. Je pense à certaines recherches biomédicales. Mais il est très clair que ce qui serait le mieux, d'un point de vue purement scientifique, ce serait de tester sur des humains. Mais on ne le fait pas, pour des raisons morales, parce qu'on considère que c'est inacceptable. Et nous, ce que nous disons, c'est que de la même façon, il est totalement inacceptable de le faire sur des animaux. On le fait sur les animaux, pourquoi ? Parce qu'ils ressemblent aux humains, parce qu'ils réagissent comme des humains, parce que comme les humains, ils sont sensibles, ils ressentent des sensations, et donc ils forment des modèles. Et c'est pour cette raison, justement, de leur similarité avec nous, qu'on expérimente sur eux. Mais c'est pour cette raison qu'on ne devrait pas le faire, parce qu'ils ont les mêmes intérêts que nous à ne pas se faire expérimenter.
Est-ce qu'on trouve au sein de TEA des médecins, des biologistes, des chercheurs qui justement soutiennent cette thèse ?
Alors non, on retrouve des sympathisants qui sont vétérinaires par exemple. On retrouve des gens qui sont philosophes, qui travaillent justement dans un cadre académique sur ces questions-là. Là récemment, François Jacquet a publié des vidéos sur qu'est-ce que le spécisme. Il y a bien quelques médecins, mais qui ne se posent pas en tant que médecins sur ces questions-là. Ensuite, pour ce qui est de la lutte globale sur cette question-là, notamment en France, on a des médecins qui ont constitué des associations pour une alimentation responsable visant à propager l'idée qu'effectivement, cesser d'axer notre nutrition sur les produits animaux était non seulement quelque chose de souhaitable éthiquement, mais de souhaitable aussi d'un point de vue médical, de la santé humaine, etc.
Très bien. Alors Yves Bonnardel de PEA, donc pour l'égalité animale, on le rappelle, hein, le site internet c'est asso-pea.ch. Alors nous avons, j'aimerais te poser une dernière question sur vraiment les notions, et puis ensuite nous allons effectivement parler, à proprement parler, du programme de ces trois jours, vendredi 1er septembre, samedi 2 et dimanche 3 septembre, donc de ce colloque qui aura lieu ici à Genève. J'aurais juste voulu savoir, pour en terminer, même si on n'en termine jamais avec le spécisme, certainement, et que nous continuerons en tout cas nous, bien entendu, à relayer tout ceci, qu'en est-il des animaux domestiques ? On sent qu'il y a de la bienveillance chez les personnes qui vont en acquérir. On sent même que certains d'entre eux font l'effort quand même de se dire « je vais aller à la SPA pour sortir des animaux de lieux concentrationnaires, ou en tout cas de lieux, disons, délicats. » Du point de vue spéciste, comment est-ce qu'on se situe par rapport à l'animal domestique ?
Je trouve que c'est...
Il y a plusieurs courants.
Il y a plusieurs courants, il y a des débats assez animés sur la question. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, les animaux de compagnie, on noue avec eux souvent, pas toujours malheureusement, mais souvent, des rapports qui sont trans-espèces et qui sont des rapports d'affection, de prise en compte des intérêts de l'autre, etc. Alors, malheureusement, dans notre société, les animaux sont des biens, des marchandises, c'est-à-dire qu'on les achète, et ensuite, c'est notre propriété, on peut en faire ce qu'on veut. Et comme ils sont notre propriété, on n'a pas de droit de regard, ou peu, sur la façon dont ils sont traités, etc. Donc, en fait, on lutte contre ce statut d'objet des animaux. Mais on n'est pas nécessairement pour que cesse toute relation avec les autres animaux. Dans plein de cas, les humains peuvent avoir des relations qui sont profitables aux animaux, et à eux-mêmes, qui sont des relations de mutuellement bonnes, Donc il ne s'agit pas nécessairement d'abolir les animaux de compagnie, mais simplement qu'ils cessent d'être des biens, des propriétés, et qu'on cesse d'avoir tout pouvoir sur eux. Parce que c'est un peu comme les enfants, il y a des familles aimantes et qui vont réellement prendre en compte les intérêts des enfants. Bon, mais il y a aussi un très grand nombre de cas où les enfants sont martyrisés, où on ne tient pas compte de leurs intérêts, etc. Et c'est un peu pareil, il y a l'idée que les enfants appartiennent à leurs parents, et du coup on n'ose pas intervenir quand un enfant se fait maltraiter dans la rue, etc. Bon, ben, on a le même problème global par rapport à la question animale et à la question des animaux domestiques.
Alors on sent bien qu'effectivement il y a énormément de travail encore à mener, et c'est très bien, c'est un work in progress, et qu'effectivement le fait de se rassembler permet justement à l'occasion de ces colloques, de ces conférences, j'imagine que le débat est court. Et effectivement, à ce que tu dis, le débat a bien cours. J'avais encore, parmi ces travaux, j'imagine qu'il y a également celui des représentations que l'on se fait des animaux et le fait de les hiérarchiser entre eux également. Et alors la transition, cette question est là pour venir justement effectuer cette transition avec le colloque. Mais effectivement, j'imagine qu'entre un panda dont l'image est fétichisé d'une certaine manière et un nuisible, enfin en tout cas ce que l'on appelle nuisible de notre point de vue, je ne sais pas.
Un rat par exemple.
Un rat, voilà. J'imagine qu'effectivement là aussi il y a tout un travail à faire pour dire c'est un point de vue et ça n'est qu'un point de vue, cette fétichisation des animaux.
Oui, tout à fait. Et nous vraiment on se bat pour essayer de faire émerger l'idée que les animaux ont des intérêts propres qui sont leurs intérêts individuels et qu'au-delà de ce que nous on projette sur eux, ils existent eux aussi. Et que c'est eux qu'il faut prendre en compte. Donc ne pas se soucier uniquement des baleines parce qu'elles font relief dans notre imaginaire, mais aussi de la moindre des sardines, parce qu'en fait une sardine souffre tout autant, non seulement qu'un humain, mais qu'une baleine également, etc. etc. Y a un travail effectivement à faire aussi entre les animaux eux-mêmes qui ne se voient pas attribuer les mêmes valeurs. Mais on le voit très bien, non seulement ils ont des statuts différenciés, donc typiquement on va dire les chiens, les chats on les cajole, etc., les cochons on les mange, donc ça c'est un statut différencié, mais par ailleurs dans les représentations il y a des différences très fortes entre par exemple les mammifères et les oiseaux, les volailles qui ont un autre statut de mépris que les mammifères, et puis bah, je parlais des poissons par exemple qui sont complètement inexistants dans notre imaginaire et qu'il faut arriver à faire émerger justement dans notre imaginaire pour qu'ils parviennent à l'existence et qu'on puisse enfin prendre en compte ce qu'ils vivent.